Les routiers sont toujours aussi sympas.
Le replay.
Bonsoir à tous, messieurs, dames, c'est Thibaut Dinouel ce soir au micro du 107.7. Très heureux de vous retrouver pour votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, 2h consacrées au monde de la route et des chauffeurs routiers. Cette émission, vous le savez, se fait pour vous et avec vous. Vos réactions seront lues en direct tout au long de ces 2 heures. Pour nous écrire, vous connaissez l'adresse radio107.7.fr. Avec nous ce soir, Nicolas Grumel, bien sûr. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du magazine France Route, vous nous faites le plaisir d'être avec nous ce soir comme régulièrement le mardi dans cette émission pour évoquer aujourd'hui le numéro 504 de France Route. Déjà, il est dans les kiosques, on y retrouve à l'intérieur plein de sujets intéressants. L'un d'entre eux nous a particulièrement plu dans la rubrique rétro, 6 pages consacrées à un camion bien particulier, le T6066 de la marque belge Mol. C'est un vieux de la vieille qu'on utilise vraiment pour des missions bien particulières et qui a été rénové par les transports Capel dans le sud de la France. Nous accueillerons 2 représentants de cette entreprise. Ce sera notre sujet tout à l'heure à partir de 22h. Et puis dans un instant, nous accueillerons par téléphone un de vos confrères, Nicolas, le photographe Xavier Stéphaniac, auteur d'un très beau livre photo consacré aux plus beaux camions décorés d'Europe. Vraiment un très bel ouvrage qui sera mis à l'honneur dans quelques minutes. Et c'est parti pour votre émission jusqu'à 23h avec un petit peu de musique. Tout d'abord, le temps pour moi de contacter notre premier invité, le photographe Xavier Stéphaniac. Et en attendant, vous pouvez déjà participer à notre sondage du soir. Connaissez-vous la marque belge Mol Trucks? Vous répondez sur notre site internet radio107.7.fr. On en parlera très longuement de cette marque, de ce constructeur à partir de 22h. Bonsoir Xavier Stéphaniac.
Bonsoir.
Photographe attitré de France Route, vous sortez un très beau livre, que dis-je, c'est pas un livre, un véritable ouvrage avec des photos de très grande qualité aux éditions Sophia, 159 pages dans lesquelles eh bien, vous nous proposez des photos, des camions les mieux décorés d'Europe. C'est un livre qui est en train de feuilleter avec grande attention Nicolas Grumel de France Route. Comment vous est venue cette idée, Xavier?
Ben disons, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire un livre, parce que pour moi c'est ce qui représente le summum, quoi. Et donc j'ai déjà eu les honneurs de faire plusieurs livres avec les éditions ETAI, et donc j'ai été contacté par Sophia Édition donc pour faire un nouvel ouvrage avec eux. Et j'ai accepté, et puis on s'est très vite entendu sur le sujet, le contenu, les camions à mettre dedans. Ils m'ont laissé carte blanche, c'est interactif quand même, mais c'est venu comme ça, quoi, assez simplement.
Ouais, c'est un peu dans la lignée de vos précédents ouvrages, hein. Il y en a vu un sur les camions de tuning, je crois, un autre sur les camions d'exception. Bon bah voilà, c'est dans la continuité, quoi, finalement.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je crois que c'est la même collection que... C'est la collection Autofocus, et puis c'est des camions qui sont assez bien détaillés, effectivement.
Alors ce livre se compose et se décompose en 16 reportages. Expliquez-nous comment vous avez travaillé pour sa conception.
J'avais un temps relativement court pour faire une sélection. On a la chance quand même en Europe d'avoir énormément de beaux camions. Donc j'ai la chance aussi, avec mon travail avec France Route, de pouvoir voyager pas mal et puis de voir quelques-uns des plus beaux camions d'Europe, si ce n'est les plus beaux. Et il a fallu que je choisisse des camions quand même relativement récents, ou alors il y en a 2 ou 3 dedans qui sont peut-être très connus, mais qui n'ont pas été détaillés dans les magazines. Et donc je trouvais que c'était quand même leur faire honneur de pouvoir les détailler.
Nicolas de France Route.
Bonsoir Xavier, ça fait drôle de te parler par micro interposé.
Ouais, salut Nicolas.
Bon, parce qu'on se voit quand même de temps en temps pour mettre au point les sujets dans France Route. Je suis un peu jaloux, hein, parce que il y a des belles photos que j'aurais aimé voir dans le magazine.
ouais, c'est vrai.
Non,
c'est vrai. Mais je comprends, hein, c'est vrai, mais c'est compliqué parce que. Quand c'est comme ça, ils veulent des photos inédites. Et puis comme là, t'es au courant, voilà, le livre s'est fait en 8 mois. Donc sachant qu'en plus, sur les 8 mois, à partir du moment où ça se décide, ça se signe, on est sur une saison morte. Donc, ce qui fait que je ne peux pas travailler puisque les camions restent dans l'immense majorité des camions de travail. Et donc là, sur les 3 premiers mois, c'est plus prendre les informations pour m'avancer sur les textes, pour m'avancer sur les fiches techniques, pour m'avancer sur les futurs camions qui pourraient y avoir et qui pourraient m'intéresser. Donc voilà, les contacts que j'ai en Europe, zoom. Et puis, donc c'est vrai que ça aide, quoi, parce qu'il faut avancer. Quand la saison arrive, les faits, on peut les faire.
Non, mais je disais ça en plaisantant, parce que tout est réglé, on travaille ensemble et il n'y a aucun problème par rapport à la sortie du livre. Et je trouve que, au contraire, justement, ce qui est très intéressant avec un beau livre comme ça, c'est que le papier glacé de très bonne qualité qui est utilisé.
Ah, ça grave la feuilleté.
Voilà, mais met en avant les photos, la qualité des photos, les reliefs, je trouve les portraits, tous les motifs à l'aérographe sont sublimés par cette mise en page de qualité. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, il y a des gros plans, il y a des photos sur une page, c'est très, très bien mis en page. Vraiment bravo aux maquettistes.
C'est vrai que c'est agréable. Pour l'instant, moi, j'ai juste vu le BAT, j'ai même pas eu encore le...
Qu'est-ce qu'on appelle le BAT, Xavier, pour les non-initiés ?
Alors, c'est le bon à tirer, en fait.
D'accord.
C'est la maquette juste avant l'impression, donc je dirais c'est l'exemplaire final, mais en papier simple, donc non relié, ça permet de voir où est-ce qu'il y a des fautes, où est-ce qu'il y a des choses à corriger, s'il y a des photos à rétrécir, des légendes qui ne correspondent pas, voilà, il y a plein de... Donc il faut tout relire, en fait.
Effectivement. On va continuer d'en parler de ce super ouvrage. Nous sommes ensemble encore pendant un petit moment. Xavier, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Je sais que vous levez tôt demain matin, donc on ne va pas vous garder non plus jusqu'à la fin de la nuit, mais vous restez avec nous, Xavier. Comme tous les quarts d'heure, on doit faire un point trafic et on vous récupère juste après. Et nous attendons vos réactions en studio avec Nicolas Grumel. Vous nous écrivez sur radio177.fr. On parle dans cette première heure du super livre signé Xavier Stéphaniac avec des super photos consacrées aux camions les mieux décorés d'Europe. Est-ce que vous avez des livres du même genre ou est-ce que vous aimeriez en avoir ? Venez nous raconter un petit peu tout cela. Qu'est-ce que vous pensez des camions décorés aussi ? Toutes vos réactions sont attendues sur notre site internet Xavier Stéphaniac. Vous êtes encore avec nous. On parlait tout à l'heure de la conception de ce livre. Ça va être quand même un sacré sentiment de fierté, d'aboutissement, une fois qu'on a le livre et, en quelque sorte, son bébé dans les mains à la fin de l'imprimerie. L'impression, oui. Même.
Oh, oui, clairement. Clairement, parce que sans faire injure au magazine, les livres, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de mieux. Quoi. C'est un magazine... Il y a vraiment que les collectionneurs, souvent un magazine, on le lit et puis on le pose. Alors qu'un livre, on va le lire et puis on va le mettre plus en évidence sur une bibliothèque, quelque chose. Et je trouve que c'est plus valorisant.
Xavier, on l'a dit tout à l'heure, il y a 16 reportages dans ce livre. La sélection a été difficile ?
Il y en a certains, ils apparaissent comme une évidence. Et après, c'est... Je ne vais pas dire que c'est difficile, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beaux camions. Et ce que j'essaye de faire, en fait, à chaque fois, c'est de satisfaire un maximum de personnes. Il y en a qui préfèrent plus le tuning, il y en a qui préfèrent plus le décoré, il y en a qui préfèrent plus l'exceptionnel, le customisé. Donc là, j'ai essayé de réunir un petit peu toutes les tendances qu'il pouvait y avoir, qu'elles soient actuelles ou un petit peu plus anciennes. Mais c'est vrai que ça n'engage que moi, mais je pense que le contenu du livre retrace bien quand même le titre des plus beaux camions. Quoi.
Ah ouais. Vous parlez de thèmes actuels un petit peu contemporains. Par exemple, il y a un camion décoré aux couleurs de la série La Casa des Papel. Ça parle à tout le monde. Pour les plus anciens, voilà, vous l'avez sous les yeux, là, Nicolas Grumel. Il vous a tapé dans l'œil, ce camion, Nicolas, non ?
L'aérographe de la paroi arrière signé MW Designs, qui est un atelier néerlandais, C'est exceptionnel, quoi. Il y a des reliefs, il y a, comment dire, il y a une expression dans le regard, il y a en surimpression le nom des villes. Bon, il y a en plus la potence porte flexible en forme de W, ça c'est pas le travail du peintre, mais c'est assez classe aussi. Enfin, cet arrière de cabine là, il est vraiment magique, quoi.
Ah, il y en a qui doivent se creuser les méninges pour réussir à faire de telles.
Parce que là, pour faire ça, il faut des heures de travail, quoi. Il faut tout déposer, il faut prendre un escabeau.
Ouais, hein. Bien sûr. Hein.
Enfin bon. Enfin, je veux dire, ça se fait pas comme ça à la main, quoi. Il faut.
Heures et des heures de travail. Alors un camion effectivement aux couleurs de la série La Casa des Papel. Pour les plus anciens, il y a aussi Indiana Jones qui est mis à l'honneur. Ceux qui aiment la musique, Bruce Springsteen également. Il y a un super camion hommage. Il est encore parmi nous, fort heureusement, Bruce Springsteen. Mais super camion aux couleurs du boss. J'en oublie plein, Xavier. Mais c'est difficile de faire la liste. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres.
Oui, oui, oui. Et puis je vous dis, voilà, il y en a qui vont préférer le tuning, il y en a qui vont préférer le décorer. Je sais que moi, celui vraiment qui m'a tapé dans l'œil, et qui, je pense, de pas mal de passionnés, c'est le lowrider de Mika Ovinen, un Finlandais qui pousse la customisation de ses camions toujours plus haut. Et c'est un Finlandais qui roule avec un camion qui fait 25 mètres de long. Il y a plus de 300 pièces en inox sur mesure. C'est un camion. Pour moi, clairement, le camion le plus fou d'Europe qui est vu, quoi.
Et vous êtes allé jusqu'en Finlande pour le voir ?
Oui, oui, je l'ai vu en Suède, je l'ai vu en Finlande, je l'ai vu plusieurs fois. Bon, après, voilà, je vais pas dire que Mika Ovinen ou d'autres Finlandais, ce sont des amis, mais c'est vrai que lorsque l'on se voit sur les expositions, bon, on n'hésite pas à échanger un petit peu, on se salue. Voilà, il y a une complicité qui s'est faite au fil des années, des reportages que j'ai pu faire avec les camions des différents candidats.
Pour l'anecdote, Xavier, souviens-toi, c'est un camion qu'on a failli avoir en France. Hein,
ouais, parce que, tout à fait.
On avait comme projet de le faire venir au 24 heures camion.
Oui, tout à fait.
Bon, c'était trop difficile à réaliser, parce que déjà, le trajet, l'itinéraire était complexe. Et puis en plus, on traversait des pays où ce type d'attelage, avec deux remorques et... C'était interdit. C'est interdit de circulation, ouais. Et notamment en France. Bon, après, il aurait pu venir déjà avec une remorque, hein, ça aurait été déjà pas mal.
Donc, mais... lui, on peut le croiser uniquement là-haut, en Scandinavie, quoi, en gros.
Ouais. Il peut aller jusqu'au Danemark, je pense, hein, c'est ça
Il peut même aller aux Pays-Bas.
Aux
Pays-Bas, et puis je crois que c'est tout, en fait. Ou alors, effectivement, c'est faire venir un second camion, un second tracteur pour tirer la deuxième remorque.
Voilà.
Et puis, arriver sur le lieu d'expo, ils assemblent tout ça. Et puis le camion, après, une fois sur le circuit, il peut parader, quoi, sans problème.
Je crois qu'on avait... au Mans, les ensembles ne peuvent pas justement aller sur le circuit, hein, c'est-à-dire sur la piste. Et puis il y avait un problème de place aussi, c'est grand, quoi.
Ah ouais, 25 mètres, c'est vraiment... Ça fait pas mal de mètres en plus que les nôtres, quoi, sachant que là, ce camion-là, c'est une œuvre, hein, donc on peut pas... dans un premier temps, il faut l'admirer de loin, voilà, avoir du recul, alors que là, le Mans, il y a de la place, hein, c'est sûr. Mais là où on pourrait le mieux l'admirer, c'est effectivement sur la ligne droite des stands, en ensemble entier.
Messieurs, puisqu'on fait de la radio, pour que nos auditeurs se rendent un petit peu bien compte, est-ce qu'on peut décrire en quelques mots ce camion ? Alors déjà, la couleur, c'est important, il est violet ?
Oui, voilà. Il est violet tandis.
Voilà, il y a des motifs dessus de films un peu Tex-Mex, quoi, enfin avec Danny Trio, hein, qui est un acteur de second rôle qui a apparu dans beaucoup de films de Tarantino, de Robert Rodriguez, etc. Donc un peu méchant, quoi.
Ouais.
méchant genre bandit méchant. Et puis il y a un côté dans la déco, c'est, moi je dirais, ça fait casino, quoi, en fait. Hein, c'est ça,
ouais, c'est, ouais, c'est, ça ouais.
C'est le, c'est un peu le. Les, tous les ce qu'on appelle les, un peu les bandits manchots voilà l'ambiance l'ambiance casino avec un peu des lumières partout du ça clignote ça enfin bon c'est mais c'est enfin, il est difficile à décrire parce que alors si on parle technique hein, au niveau essieux il y a donc il y a 9 essieux donc avec un avec deux remorques donc et un dolly entre les deux remorques c'est ça
oui,
et
oui,
puis un tracteur trois essieux qui je pense est un 6-4.
Et qu'est-ce qui fait Xavier vraiment que celui-ci est votre préféré plus que qu'un autre?
Bah, j'ai toujours aimé les hot rod donc bah, des années 50. Et pour moi, c'est le premier vraiment qui a réussi à basculer donc le mouvement hot rod d'une voiture donc sur un camion. Donc là, il a fait faire sur mesure des pneus à flanc blanc, donc des vrais flanc blanc, c'est pas des pneus peints. Donc il a fait faire, qu'il a commandé chez Bridgestone aux États-Unis. Donc il a fait faire des enjoliveurs de roues avec des rayons comme sur les voitures, bah, les hot rods qu'il pouvait y avoir aussi. Et, hein, il a un pare-choc à l'avant qui fait penser aux vieilles voitures de, bah, pareil, des années 50. Toute la déco, tous les adhésifs qu'il peut y avoir, c'est très, très, très coloré, c'est très, très flashy. C'est, et puis, c'est, ce qui est fou, c'est, je le répète, c'est que c'est un authentique camion de travail et qui fait du ciment, quoi. Donc c'est incroyable de se dire que c'est pas juste un camion pour faire joli quoi. C'est une carte de visite phénoménale.
Et c'est un sujet vraiment passionnant. Xavier, est-ce qu'on peut encore vous garder un petit quart d'heure, ça vous va ou pas?
Oui.
Super. Parce qu'il est déjà 21h30, l'heure passe très vite. C'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps, mais l'heure tourne déjà 21h30. On fait un point trafic et puis on vous récupère juste après, Xavier. Et c'est le photographe attitré de France Route, qui est avec nous depuis une bonne demi-heure à présent. Et vos réactions sur notre site internet radio177.fr. Il y a Seb Galax qui vient de nous écrire. Lui, il nous dit que le camion qu'il adore, c'est celui avec Belmondo. Je crois pas qu'il soit dans le livre, Xavier.
Ouais.
Non, celui-là, il n'est pas dans le livre, même si effectivement, voilà, il y en a tellement qui auraient mérité d'y être. Voilà, l'éditeur m'a demandé des photos exclusives, et puis donc des camions inédits, quoi. Donc c'est pour ça qu'il pouvait pas être dedans, puisqu'il avait eu les honneurs d'être la star du mois dans un vieux magazine, un ancien magazine de France Route.
Alors j'ai bien lu la préface de ce livre, elle est signée Nicolas Grumel en l'occurrence. Nicolas, vous dites, il est moins difficile d'apprivoiser un Scania suédois qu'une panthère des neiges dans son milieu naturel. Néanmoins, apprivoiser certains transporteurs et conducteurs routiers dont le caractère peut s'apparenter à celui d'un ours au réveil post-hibernation nécessite son lot de patience et de persévérance. Vous allez vous faire des amis là?
Ah bah on les fréquente, hein, on les fréquente, mais ils le savent.
Ça a été dur,
non,
Xavier,
non.
De trouver.
Non, c'est, non. Si, pour être plus. Enfin, c'est amusant, mais ce sont des gens qui travaillent beaucoup déjà, donc il faut pouvoir les attraper. Quand on travaille beaucoup et puis qu'on a fait de la route toute la journée, on peut être parfois un peu irascible, hein, pour le moins. Et puis, par contre, quand ils viennent sur les truck shows, ils savent qu'ils se posent le week-end pour être avec les copains, pour faire un peu la fête, et puis pour la fierté de montrer leur véhicule. Là, par contre, c'est open, quoi, et ça se passe très très bien, et c'est super, quoi. Il y a une super ambiance. C'est un milieu dans lequel il y a une super ambiance.
Ouais. Xavier Stéphaniac, vous rejoignez ce que vient de dire Nicolas?
Oh, je dirais que c'est très rare, c'est très très rare. Ça a dû m'arriver une ou deux fois et c'était pas des Européens, c'était des Américains. Donc c'est vrai que c'est dans l'immense majorité des cas, vraiment c'est relativement simple. Et après voilà, sans prétention, je dirais que peut-être que mon nom précède, parce que c'est vrai que je commence à être un petit peu connu dans le milieu. Donc, à partir de là, voilà, c'est vrai que ça, je dirais, je pense que ça facilite les choses parce que, bah, en fait, ça leur donne l'occasion d'avoir, d'avoir leur camion bah, dans un magazine, dans un livre et puis quelque part de leur faire un souvenir.
Bah, j'imagine que quand on est passionné comme ça de son camion à tel point de vouloir le décorer, c'est quand même chouette de pouvoir l'exposer au monde entier dans un livre.
Ah oui, clairement, je pense aussi, oui.
Et c'est pas si simple non plus, Xavier, on a l'impression, voilà, on prend une photo de camion. Non, c'est pas prendre une photo de camion, il faut avoir la bonne lumière, le bon moment, le bon angle. Vous y passez du temps quand même sur ces photos?
Bah, j'y passe du temps, mais c'est vrai que c'est pas, comme j'explique souvent, une moto, une voiture, on la domine. Parce que voilà, je dirais que le fond, il n'est pas forcément important, entre guillemets. Mais alors qu'un camion, de par la masse, bah, le camion le domine, et donc tout ce qu'il y a derrière, obligatoirement, ça va être sur la photo. Donc les fils électriques, les poteaux, les voilà, il y a tout un tas de choses. Donc c'est, il faut vraiment avoir de la place. Et parfois, ben, j'ai pas l'occasion de retourner dans le pays du propriétaire ou sur une autre expo pour faire des photos, des compléments de photos. Donc, des fois, ben, je suis obligé de travailler en manuel pour essayer de restituer la meilleure, plus la réalité sur la couleur du camion, quoi. Mais bon, c'est parfois c'est pas évident. Voilà, il y a peut-être quelques camions. Quelques photos dans le livre où la couleur n'est pas retranscrite, mais c'est vraiment très marginal, quoi.
Et quel est l'environnement idéal pour la photo de camion parfaite?
Pour moi, il n'y en a pas. C'est le feeling. Il n'y en a pas forcément. Voilà, c'est... Je dirais que le côté... Non, franchement, non, j'ai pas de décor. J'ai pas de décor comme ça qui me vienne... Non, j'aime pas trop le côté industriel, même si des fois on peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que les paysages ou alors ça peut être des bâtiments rouillés, des ruines, des choses comme ça. Donc ou alors ne serait-ce qu'un beau ciel bleu avec des nuages avec des formes assez sympas. Non, il n'y a pas d'endroit particulier, je trouve.
En tout cas, ce qui m'a marqué en feuilletant ce livre, c'est quand même la capacité de ces gens qui sont passionnés effectivement par le monde de la route, déjà investir, parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire des camions autant décorés. Je sais pas combien ça peut coûter, mais j'imagine que ça compte en milliers et milliers d'euros, voire plus. J'ai du mal à imaginer.
Plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Bah, par exemple, pour en revenir au lowrider, le lowrider, il y en a pour 1 200 000 euros.
Ah oui.
Voilà.
Ouais, faut avoir un budget, quoi.
Voilà.
Et puis aussi, c'est la capacité des gens à regorger de nouvelles idées, à se creuser les méninges pour réussir à aboutir à des camions qui sont en fait quasiment des chefs-d'œuvre pour certains, quoi. Où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces idées?
Bah, je pense que la plupart vont la chercher dans le milieu automobile ou alors dans le milieu de la moto, Harley Davidson, tout ça. Et puis souvent, lorsque ce sont des camions décorés, bah, y a des thèmes qui sont sous forme d'hommage. Ou alors c'est la famille, des films qui ont plu, des séries, parce que là, c'est vrai que là, sur ces dernières années, les films, les séries, ça revient beaucoup. Mais après, je dirais que le catalogue des séries ou des films est tellement large que ça va. On peut réussir à trouver un thème qui soit novateur, quoi, par rapport à, je dirais, tout le temps des Indiens ou tout le temps des pin-up. Voilà, ça c'est... Il faut éviter le...
En même temps, des Indiens, comme il y en a sur le Scania Long Line de McKean, décoré donc, à l'aérographe, c'est encore MW Designs. Là, c'est exceptionnel. Ils sont...
Oui, il y a vraiment un mélange.
Vraiment bluffant, quoi.
Et puis là, c'est surtout, moi, c'est les détails, quoi. Les détails, quand on ouvre les portes de ce camion, on voit que les intérieurs de portes, ils sont peints avec des ours, des aigles, des loups. Voilà. Et donc, normalement, lui, donc, pour la petite info, donc, si Nico moi Nicolas n'est pas au courant, mais normalement ce camion sera au Mans donc cette année.
Yes. Voilà. Bah, super.
On peut rappeler les dates peut-être, on les a en tête.
C'est fin septembre, ouais, le dernier week-end de septembre.
Eh ouais, bah, ça arrive, enfin ça arrive. Là, c'est quand même dans quelques mois. Ouais, ouais, c'est une question piège. Ouais, on va chercher. Mais oui, effectivement, c'est toujours de façon à la fin du mois de septembre.
28-29 septembre.
Ah bah voilà. 2024. On a bien noté. Déjà 21h45. Xavier, on vous retrouve dans quelques instants et puis après on vous lâche, c'est promis. Ça vous va?
Ouais, ça va.
À tout de suite. Le point trafic, c'est dans un instant. Radio 107.7.fr, vous connaissez l'adresse de notre site internet pour réagir à notre discussion que nous avons depuis près d'une heure avec Nicolas Grumel, le rédacteur en chef de France Route et le photographe attitré de France Route, Xavier Stéphaniac, qui est encore avec nous et qui sort aux éditions Sophia ce très bel ouvrage consacré aux plus beaux camions décorés d'Europe. Xavier, les camions décorés, c'est pas qu'en extérieur, c'est aussi à l'intérieur des cabines, ça c'est intéressant.
Ah oui, tout à fait. Là, ils rivalisent d'ingéniosité donc pour sortir du lot. Et c'est vrai que là, depuis une dizaine d'années, tous les grands projets, ils ont des intérieurs totalement remaniés, quoi.
Qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Pardon, Nicolas, allez-y.
Je remarque, par exemple, celui de... du Volvo de Henrik Guldager qui est, on en ferait bien son salon, hein. C'est, ça a l'air hyper enfin c'est un cocon quoi, c'est
ouais,
par contre avec des matériaux grande classe quoi, donc
ouais, Alcantara souvent et voilà. Puis les petites pièces plastiques sont peintes ou alors ils sont et il y a une technique qui permet de transposer donc comme des petites décorations, des imitations bois, des imitations carbone, voilà tout ça aussi qui donc ça se fait pas mal.
Moi la question que j'avais c'était comment tu fais pour photographier les intérieurs parce que c'est quand même pas bon, c'est grand mais c'est pas non plus démesuré. L'objectif de l'appareil photo, il faut du grand angle, j'imagine. Et ils sont pas trop déformés, quoi. Donc,
c'est un fisheye en fait, et puis donc ça permet effectivement de sans avoir beaucoup de recul, de pouvoir prendre tout l'intérieur de la cabine. Après, bon, voilà, c'est une question d'habitude, hein, de réussir à bien prendre l'intérieur par rapport à l'angle.
Oui, parce qu'il y a des fois où on sent que tu dois être en équilibre, parce qu'il faut quand même monter 3 ou 4 marches. Hein. Donc oui, tu dois être un peu en équilibre sur les marches.
Donc c'est ça. Et
pas simple, hein, quand même. Hein.
Et j'ai mes compères qui sont là pour m'aider, donc qui me tiennent pour pas que je tombe et que je puisse faire la correctement. Quoi. D'ailleurs, je les remercie. Donc Rémi Bridel, Nicolas Berrière et Samuel Lacombe qui sont souvent avec moi et puis qui m'aident beaucoup vraiment.
Ouais, c'est ça, vous faites équipe, hein, vous partez comme
clairement,
ça.
Ouais, clairement. Et je crois qu'ils ont du mal à se rendre compte de l'importance qu'ils ont dans la réalisation de cet ouvrage et puis des photos que je peux faire avec eux, quoi, parce que j'ai besoin d'eux, clairement, hein, tout seul, ça serait vraiment compliqué.
Bon, là, c'est un camion, Xavier, sur un livre sur les camions. Les plus incroyables en termes de décoration en Europe. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un livre sur les camions les plus incroyables du monde entier?
J'aimerais bien. Voilà, c'est un message qu'il faut envoyer aux éditeurs, c'est clair que j'aimerais bien.
Parce que là, aux États-Unis, il y aura de quoi faire quand même. Hein.
Ouais, j'y suis allé pas mal de fois aux États-Unis. Et puis, j'avais fait déjà un livre où il y avait quelques sujets américains. Et puis... c'est vrai que c'est encore autre chose, c'est un autre style, c'est une autre approche, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien aussi.
Et dans un tout autre style aussi, y a également toute une culture du camion décoré en Asie, hein, en Asie, en Inde, en Thaïlande, c'est hallucinant.
C'est tout vrai que suivant le pays, souvent il y a une identité donc sur le camion décoré, clairement.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y aurait de quoi faire un bon bouquin sur le monde entier là. Mais bon, pour les sélectionner, ce serait difficile quand même.
Bon, en France, il y en a un qui est célèbre, c'est le camion hommage à Jean-Jacques Goldman.
Oui,
Ce lycée célèbre, bon, je crois. Enfin, il avait fait l'objet d'un podcast avec notre ma collègue Francine Thomas, podcast covoiturage. Elle avait pris place à bord de la cabine de ce camion assez exceptionnel. Il y en a d'autres en France comme ça, des camions.
Il y en a tellement. C'est difficile. Hein, c'est difficile à.
Il y a par exemple. Celui que tu as mis dans le livre, hein, le Public Enemies, là, qui est quand même de l'écurie Vandenbulk, et qui sort un camion exceptionnel tous les 2-3 ans, c'est ça, hein.
Ouais. Ben, ils sont vraiment passionnés, et puis c'est amoureux du matériel, c'est vraiment une chouette team, quoi. Vraiment très passionné, et puis on voit qu'il aime ça, c'est très plaisant de discuter avec lui. C'est vraiment sympa, quoi. Toujours des super moments, quoi.
On peut aussi citer une entreprise qui fait beaucoup la ligne sur le réseau Vinci Autoroute, parce que les auditeurs peuvent les voir, les camions sur la 10, c'est les Transports Beaux.
Ouais.
Qui font beaucoup de Paris-Bordeaux, en fait. Et eux, tous les camions de l'entreprise sont décorés.
C'est une bonne com aussi. Hein.
Belle remorque, bah c'est oui. Une très bonne communication, bah exactement. Et eux, on peut les voir sur l'autoroute A10. Hein. Ils sont basés non loin de.
Ouais, ils sont basés à Coué.
Voilà, c'est ça, à Coué. Et ils font la ligne Paris-Bordeaux, donc ayez l'œil, hein, vous les verrez peut-être là ce soir sur un des camions du Transport Beau.
Xavier,
sur la route ou sur un parking.
Xavier, il est déjà 22h, quels sont les futurs projets là pour vous?
Ben, début avril, je vais aux Pays-Bas et Belgique, après au mois de mai, je vais en Angleterre, au mois de juillet, je vais au Danemark. Mois d'août, je vais en Norvège et Suède.
Pas mal.
Pour les magazines.
Et Globetrotter.
Et puis après, voilà. Bon, clairement, voilà, j'aimerais bien refaire d'autres livres. Hein. C'est quelque chose qui me plaît. C'est toujours des challenges, des remises en question. C'est des choses que j'aime aussi pouvoir laisser à mes enfants. C'est un support qui me plaît beaucoup, le livre. Hein, ouais. Parce que c'est très gratifiant, quoi.
Ouais. Et en tout cas, on le répète vraiment, mais celui-ci est vraiment très très chouette, à feuilleter en termes d'objets de collection dans une bibliothèque. Enfin, c'est vraiment un très bel ouvrage aux éditions Sophia. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous pendant quasiment une heure.
Avec plaisir.
Et on vous retrouve très vite hein, sur le 107.7. Vous ressortez un livre. Effectivement, nous, on le saura très très vite. Et puis, on vous recontactera. Nicolas, vous rendrez le livre à Sébastien. Il lui appartient, je crois. Il me l'a confié. Il m'a dit, tu fais gaffe. Hein, donc.
Je vais le piquer en loose day.
Il réécoutera les.
Parce que j'ai pas reçu le mien, Xavier.
Non, moi, j'ai pas reçu
non plus. Bon, Xavier, on se rappelle bientôt pour le prochain France Route. Hein, parce qu'on a un peu de boulot, quand même.
Allez Xavier, merci, on vous laisse aller dormir parce que vous réveillez très tôt demain. Merci vraiment d'avoir été avec nous tout au long de cette heure et encore bravo pour ce super livre. Et oui, le temps passe très vite puisqu'il merci est déjà 22h et bien nous allons passer au deuxième sujet de notre émission. Alors rien à voir, on va partir en Belgique, à la fois en Belgique et puis à la fois dans le sud de la France, dans la région d'Alès. Vous allez voir dans un instant. Pour l'heure, merci de nous être fidèles, il est déjà 22h. C'est déjà la deuxième heure de votre émission et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Vous nous écrivez, vous connaissez l'adresse, hein, radio177.fr, et puis le sondage du soir, connaissez-vous la marque belge Mol Trucks? Peut-être que oui, peut-être que non, vous votez sur notre site internet. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à rester branché car on va en parler longuement jusqu'à 23h. On va prendre la direction du sud de la France hein, pour rendre visite notamment au transport Capel, c'est l'un des plus gros transporteurs d'Europe, spécialisé dans les convois exceptionnels notamment, et qui est doté d'un important pôle rénovation et qui s'est lancé dans la restauration d'un camion hors du commun, un camion du constructeur Mol Trucks. C'est le sujet de notre deuxième heure, qu'on débutera juste après un petit peu de musique. Mol T60-66, le réveil d'un géant, c'est le titre de l'article qu'on retrouve en page 58 de France Route. Papier intéressant de votre confrère Pascal Stitch, Nicolas Grumel. Pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier ?
Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Eh bien, parce que c'est un camion exceptionnel, voilà, tout simplement. Et on aime bien ça, à France Route, les camions qui sortent de l'ordinaire. Et Pascal Stich, qui est un journaliste extrêmement expérimenté et qui est peut-être un des journalistes de la presse française qui connaît le mieux l'univers du transport routier et du camion, ça l'a vraiment branché de faire ce sujet. Il avait déjà entendu parler du fameux MOL de Capelle depuis un moment. Et puis, il se trouve que Capelle est rentré en contact avec nous. Avec Romain, on échange beaucoup parce que faire un reportage avec l'équipe de Capelle, c'est intéressant pour nous parce qu'on est sûr d'avoir des bonnes photos, des photos spectaculaires, un sujet spectaculaire parce qu'ils font du transport exceptionnel. Donc c'est quand même. Enfin, ils font pas que ça, mais c'est quand même le sel du reportage. Quoi,
et quand vous dites Romain, il s'agit de Romain Le Gouen, voilà. L'un des représentants des transports Capelle qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Romain.
Bonsoir Thibault, bonsoir Nicolas.
Bonsoir Romain.
Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir, Romain, donc représentant des transports Capelle. Vous avez décidé de vous lancer dans la rénovation de ce mastodonte, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. C'est aussi l'occasion pour nous, et on aime ça dans cette émission, de faire connaissance avec toutes les entreprises de transport de France. Et donc, on va mettre la lumière sur votre entreprise, les transports Capelle. C'est toujours aussi sympa d'être mis en avant comme ça dans un magazine comme France Route.
Ouais, tout à fait. C'est clair que c'est une très belle vitrine. Ça met en valeur des compétences exceptionnelles, parce que ça met en valeur des compétences autour de la mécanique. Mais ça met en valeur aussi du joli matériel, du matériel qui a porté la marque. Alors le MOL, vous en parlerez un peu plus tard avec Florian, mais c'est un tracteur qui a roulé dans les années 60, 70, jusque dans les années 90, à différents moments, à différents endroits de la planète, parce que c'est pas que chez nous. Et du coup, c'est une marque assez peu connue en France, qui est arrivée un peu chez nous. Alors, pour la petite histoire, vous le verrez avec Florian, mais un peu par hasard. Et du coup, ça met en valeur aussi, comme je te disais tout à l'heure, des compétences de rénovation, parce que le MOL, il a été rénové de fond en comble, de A à Z, si je peux dire, jusqu'au bout et jusqu'au moindre point de peinture par des équipes. Et du coup, ça permet de parler aussi au-delà de ça de l'entreprise, quoi.
Nicolas.
Oui, donc ce qui est à souligner, c'est que. Parce qu'on a l'impression que maintenant, il y a beaucoup de transporteurs qui externalisent les activités d'atelier, de réparation, de SAV, hein, comme on dit, on appelle ça du SAV. Et puis, on fait du leasing aussi. Mais chez Capelle, on a un atelier, quoi. On a des mécaniciens, on a du monde pour qui sait mettre les mains dans le moteur, quoi.
Ouais, dans chez Capelle, alors la particularité du convoi et du monde du convoi exceptionnel, c'est qu'on a énormément de typologies de tracteurs, énormément de typologies de remorques, et ça nécessite quand même des entretiens assez particuliers. Et c'est pour ça que dans le groupe, en fait, on a plus d'une vingtaine d'ateliers. Et qui, avec des compétences, comme tu disais, en mécanique, électricité, hydraulique, et qui permettent en fait de remettre en état nos remorques, de remettre en état nos camions. Et aujourd'hui, il y a une particularité aussi chez Capelle, c'est que depuis quelques années, il y a un pôle industriel qui s'est monté à Alès, et sur lequel, en fait, on a regroupé, enfin, la direction du groupe Capelle a voulu regrouper un certain nombre de compétences, avec notamment, comme je le disais, l'atelier que Florian vous présenta tout à l'heure, et au-delà de ça, des compétences en chaudronnerie, en serrurerie, en bureau d'études, et qui permettent en fait de vraiment compiler des compétences autour du métier du convoi, et du coup de répondre à des demandes de parfois complètement dingue, quoi.
Alors, pour bien comprendre tout cela, remettons un petit peu l'église au milieu du village, si j'ose dire. Les transports Capelle, difficile de passer à côté quand on travaille sur la route. Mais pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas, c'est une entreprise créée dans les années 50, Romain, dans le sud de la France, et qui s'est développée vraiment à grande vitesse. Hein.
Alors, c'est une entreprise, comme tu l'as dit, aujourd'hui, qui est peut-être qui fait office d'une petite référence, on va dire une bonne référence du convoi en France et en Europe, mais c'est parti en fait de la région de Sévenol, avec notamment à Salle du Gardon un premier patron chauffeur qui s'est lancé, René Capel, en 1951, donc il y a 73 ans cette année, et qui a lancé en fait son entreprise de transport. Alors pas du tout dans les convois au départ, il s'est lancé en fait avec les activités de transport de charbon, parce que la région était très très portée sur cette activité-là. Et du coup, au fur et à mesure, dans les années plutôt 60-70, les premiers convois étaient faits chez Capel. Ça s'est développé au fur et à mesure. Donc tu vois, des années 60 à 60, 70, 80, les premiers convois ont eu lieu. Ensuite, il y a eu un gros développement sur la partie réseau du groupe Capel, et la naissance du groupe Capel jusqu'aux années, on va dire, 99, presque 2000. Et après est venu en fait des gros dossiers qu'on portait, comme la 380, qui a été un peu un déclencheur des mastodontes de dossiers au niveau du convoi, un dossier qui a porté le groupe. Et puis ensuite, c'est devenu le premier transporteur exceptionnel français dans les années 2010-2015. Et ensuite, un développement européen au travers des sociétés comme Van Eckdom ou comme Delange, qui sont basées et en Belgique et aux Pays-Bas.
Et on va continuer à en parler ensemble, Romain. Il est déjà 22h15, donc on va faire un point trafic et puis on vous récupère juste après, Romain, pour continuer de parler ensemble des transports Capel. Si vous avez vous aussi, auditeur, auditrice, une question à poser, n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse radio177.fr. Avant cela, 22h16, voici votre point trafic. Et ce soir avec Romain Le Guen des transports Capel. Romain, on en parlait juste avant ce point trafic. Merci d'être encore avec nous ce soir. On en parlait de ces développements des transports Capel depuis les années 50 jusqu'à présent, plus de 7 décennies, jusqu'à aboutir finalement à la place de leader en France, en Europe, des transports et des convois exceptionnels surtout. C'est vraiment vous la référence en matière de convois exceptionnels.
Alors, je sais pas si on peut se vanter de ça, mais en tout cas, on fait des choses.
Faut jeter des fleurs parfois.
Ouais, on pourrait, mais en fait, du coup, on est, en tout cas, on fait tout pour. On fait énormément de convois. On essaye de répondre à des demandes toujours plus extraordinaires. Alors après, on fait pas que du convoi. On fait aussi du transport conventionnel, transport bras de grue avec des bras de grue. On fait des choses assez extraordinaires aussi sur ce domaine-là. On a plein d'autres activités dans le groupe, comme de la formation, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre, entre guillemets, de se dire que voilà, on est une des références du marché, et si ce n'est la première, c'est sûr que ça peut être considéré comme ça. Après, il y a d'autres acteurs dans le métier, on n'est pas tout seul, et du coup, on peut se permettre de te le dire.
Vous parliez tout à l'heure de transports assez incroyables qui vous ont marqué, notamment la 380. Il y a d'autres choses comme ça qui ont fait l'histoire des transports Capel?
Alors, des convois extraordinaires, il y en a, je dirais, presque tous les jours, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez répandu. On les voit sur la route, hein, beaucoup de gens les croisent. Alors, sur les autoroutes, on y passe, mais un petit peu moins. Non, on n'est pas forcément tenu sur les autoroutes, mais on a des convois. Alors, la 380, c'est une chose assez extraordinaire qui a marqué tout le monde. On fait des choses assez intéressantes, du style des transports de catamarans qui font des largeurs assez impressionnantes qui dépassent les 8 mètres de large. On fait sur la route, on fait des choses aussi assez portées, notamment sur aussi des côtés un peu sensationnels, mais aussi on va dire qui touchent les gens. Là par exemple, ce soir d'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler, il y a un convoi qui est assez exceptionnel dans la région d'Alès, parce qu'il est passé à Alès hier et il continue sa route ce soir, direction Aubenas. Et en fait, c'est un tracker de la sécurité civile, donc un avion de la sécurité civile qui est réformé, donc qui ne vole plus naturellement, et que l'on transporte en fait pour aller être mis en exposition sur une base pour une association en fait de pompiers de SOS Tracker 07. Et en fait, c'est un convoi qui marque, parce qu'en fait ça touche les gens, ça touche entre guillemets le côté affect, et aujourd'hui, là tu vois, hier j'y étais et on a des dizaines et des dizaines de personnes, que ce soit de l'entreprise, de l'association, des gens qui viennent voir le convoi. et qui se déplacent pour voir ce genre de choses. Et c'est là que tu te dis, quand tu es au volant du camion, tu vois tous ces gens, tu es hyper, hyper vigilant, tu as une équipe autour de toi, parce que tu n'es jamais tout seul en convoi, et tu vis des trucs extraordinaires même au travers de ça. Alors, il n'y a pas que ça, on transporte aussi énormément de pièces industrielles, on transporte des choses plus ou moins grosses, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que du très lourd et du très gros en convoi, il y a aussi des choses qui sont un peu plus petites, mais tu transportes une part de soit une part de la vie industrielle d'une entreprise, ou tu transportes aussi une part de vie pour les gens, parce que tu peux transporter aussi un bateau, tu peux transporter des choses aussi très impressionnantes sur la route, puisque tu peux transporter des pales, enfin aujourd'hui on transporte des pales d'éoliennes, qui dépassent les 70 mètres.
On en voit souvent des convois comme ça sur l'autoroute, effectivement. Ouais.
Ouais, et du coup, au travers de ces convois, en fait, justement, tu construis en fait quelque chose, et au-delà, après, t'as des convois assez importants. Là, on transporte des tunneliers pour creuser des métros, on transporte des choses, et tu participes en fait vraiment comme à une époque on a transporté les éléments du pont du viaduc de Millau, sur lequel ça c'est vraiment des choses où tu peux tu construis vraiment quelque chose. Donc au-delà du côté entreprise qui se développe, tu participes en fait finalement un peu à la construction de tout ça, quoi.
Ouais, j'imagine que vos employés, les chauffeurs routiers, alors tous les chauffeurs routiers, effectivement, cette notion un petit peu de service et de fierté, mais chez vous c'est vraiment des missions encore plus particulières qui rendent les choses vraiment peut-être plus intéressantes encore.
Ouais, ce qui marque en fait, c'est quand tu discutes avec les conducteurs du groupe, mais au-delà de ça, du convoi, ils ont tous entre guillemets cette fierté alors de faire des choses extraordinaires, certes. Mais ils ont aussi cette notion de se dire voilà, c'est un métier où tu es assez libre entre guillemets, même si c'est très très réglementé le convoi exceptionnel, hein, on fait pas n'importe quoi, c'est quand même assez les gens ont une certaine liberté, comme un routier qui fait du traditionnel, et ben il y a quand même cette liberté, il y a quand même cette chose là et puis tu es responsable en fait finalement de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc c'est vrai que derrière tu portes vraiment quelque chose derrière, quoi. C'est pour eux c'est fort, quoi.
Ouais, Nicolas.
Justement, Romain, à propos des conducteurs, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelles qualifications ils ont par rapport à un conducteur routier classique?
Alors, les conducteurs, alors chez nous, ont les mêmes qualifications la base, en fait, pour vraiment être conducteur de convoi. C'est là où quand on participe d'ailleurs au Mans ou au Castellet, quand on vient faire les salons, on a beaucoup cette question de gens qui nous disent, qui viennent nous voir et nous disent, mais attendez, moi j'ai jamais pensé à faire du convoi, mais qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Alors en fait, du coup, il y a la réponse, en fait, elle est très simple. La base, en fait, c'est le permis CE, la FIMO à jour. Et après, derrière, le mieux, c'est d'avoir une expérience en plateau. Ça, c'est ce qu'on demande en général pour commencer. Et puis après, en fait, dans une société comme ça, c'est vraiment à l'évolution, en fait, quand tu te dis, chez nous, tu commences en plateau, puis après, tu vas commencer à faire un peu de catégorie, puis après, tu vas changer de type de remorque, de type de semi, de type de tracteur, et tu vas évoluer, en fait, sur des semis plus techniques, type des extras surbaissés, des remorques extensibles, où tu peux extenser jusqu'à 4 extensions, c'est assez sympa.
Donc, juste pour préciser, plateau, ça veut dire plateau porte-engin, hein, c'est ça, on est d'accord?
Alors, tu vas avoir le plateau droit traditionnel,
aux automobilistes qui écoutent l'émission.
Donc c'est un plateau droit traditionnel sur lequel tu vas charger, aujourd'hui tu peux charger de la palette, comme tu peux charger aussi des machines industrielles dessus, d'ailleurs. Et après tu as, comme tu disais, des porte-engins, des porte-chars avec rampe, sur lequel les conducteurs, là, par contre, ont des qualifications qu'ils acquièrent au fur et à mesure, des CACES spécifiques pour charger les engins en autonomie. Et voilà. Et puis après, au fur et à mesure, tu évolues sur des types d'engins plus techniques.
Donc pour résumer, il n'y a pas besoin de qualification, alors qu'on pourrait penser, vu la taille, les dimensions des véhicules, ou enfin, en tout cas de la marchandise transportée, qu'il faudrait des surqualifications, mais en fait, pas forcément.
Non. Il n'y a pas de surqualification. Nous, dans le groupe, en fait, on a un centre de formation qui a monté une formation spécifique sur les convois, qui n'est pas obligatoire, ça faut le noter, mais qui est finalement un tremplin pour rentrer sur ce métier du convoi plus je dirais, plus rapidement ou plus facilement et avec plus de sérénité. Cette formation, elle est basée à Alès et du coup, c'est vraiment quelque chose de spécifique qui a été monté dans un interne groupe qui n'existe pas ailleurs. C'est vraiment un tremplin. Voilà, c'est la plupart de nos conducteurs ne rentrent pas avec cette formation-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui permet en fait d'aller plus vite et d'acquérir des compétences plus poussé et de commencer finalement en rentrant dans l'entreprise avec ou dans n'importe quelle entreprise de convoi avec la clé pour dire j'ai déjà conduit en fait en formation des convois de catégorie 1, de catégorie 2 et je sais j'ai déjà les bases pour le faire.
Alors Romain, vous donnez sans doute l'envie à certains auditeurs peut-être de postuler chez vous. Qu'en est-il du recrutement chez les transports Capel en ce moment?
Alors le recrutement, on a des offres en cours sur des conducteurs routiers. Toutes les agences ne recrute pas en ce moment. On a des offres, on les a sur notre site internet qui elles sont mises à jour tous les jours. On cherche aussi des tractionnaires, donc des gens qui vont rouler pour nous sur des contrats spécifiques. On a néanmoins aussi, au-delà des conducteurs, des besoins, et c'est notamment le sujet du soir, des besoins de mécaniciens poids lourds et d'autres compétences, de carrossiers par exemple, qui sont des compétences rares aujourd'hui et néanmoins hyper importante dans notre métier.
Et oui, parce que vous avez un pôle innovation qui a été bien sollicité ces derniers mois. On va reparler plus longuement, mais c'est aussi pour ça.
C'est ça. En effet, on a ce pôle en fait qui a été monté et aujourd'hui on a même au-delà du pôle d'ailleurs mécanique à Alès, qui est le pôle industriel à Alès qui s'est formé et aujourd'hui on a aussi le réseau de 20 ateliers en France qui recherchent aussi des mécaniciens au-delà de ça.
Très bien. Eh bien, Romain Le Guen, déjà 22h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez peut-être un petit message à faire passer, quelque chose. Allez-y, hein. L'antenne est ouverte.
Oui, aujourd'hui, si je pouvais faire passer un message, parce que je sais qu'il y a certains de nos conducteurs, voitures pilotes aussi, parce que ce qu'on note, c'est que les conducteurs chez nous ne sont jamais seuls. Ça, ils vous le diront toujours quand on est en convoi d'une certaine catégorie un peu haut. Ils ne sont jamais seuls, donc avec les voitures pilotes. Si je pouvais faire passer un message, c'est vraiment de les féliciter un petit peu aussi, parce que c'est un métier et aujourd'hui, il y a toute une structure autour avec les exploitations, les bureaux d'études, les autorisations de convoi qui travaillent vraiment à faire en sorte que demain on puisse relever des défis toujours plus, je dirais pas toujours plus important parce qu'à un moment donné ça va s'arrêter, on est limité, mais toujours plus impressionnant et toujours plus intéressant pour la société.
Eh bien, merci beaucoup Romain pour votre
merci
sympathie et dans un instant on va accueillir votre collègue qui lui est coordinateur de la flotte au transport Capel, c'est Florian Ruland qui sera avec nous et lui on va parler vraiment spécifiquement de la rénovation de ce MOL T60-66. Ce sera vraiment l'objet de notre dernière demi-heure. Merci Romain et à très vite sur cette antenne. 22h31, oula, déjà l'infotrafic. Connaissez-vous la marque belge MOL Trucks? C'est notre sondage du soir, vous votez sur notre site internet et si vous ne connaissez pas, bien, je vous conseille de rester avec nous car désormais nous allons tout savoir sur ce constructeur et l'un de ses camions mythiques.
L'invité des routiers.
Et pour cela, j'accueille Florian Ruland. Bonsoir Florian.
Et bonsoir Thibault, bonsoir Nicolas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de la flotte chez les transports Capel, que l'on connaît par cœur désormais grâce à votre collègue Romain qui était avec nous depuis 22h. On va donc se concentrer maintenant sur cette aventure humaine, aventure mécanique aussi, la rénovation du MOL T60-66 à l'occasion des 72 ans des transports Capel. Déjà Florian, qu'est-ce que c'est que ce camion?
Alors le MOL T60-66, hein, donc le véhicule surnommé le géant, c'est un véhicule un petit peu particulier qui a été fabriqué par une société belge qui s'appelle MOL et qui initialement fabriquait des véhicules un petit peu hors normes, des véhicules qui servaient aux déplacements portuaires, etc. Donc des véhicules qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir croisés sur nos routes ni françaises ni françaises d'ailleurs.
Il ressemble à quoi?
Alors ça ressemble un petit peu à un gros camion. C'est vraiment un très très gros véhicule. Alors un petit peu avec un museau long, hein, donc ouais. Vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, quoi.
Ça rappelle un peu le Berlier T100, un peu, hein, c'est ça.
Un petit peu plus gros et un petit peu plus carré.
Plus carré, exactement, exactement. Ouais.
Et ce camion, les transports Capel en ont fait l'acquisition dans les années 80. C'était pour quelle occasion ?
C'est ça. 86. Alors ce véhicule est arrivé un petit peu entre guillemets par hasard dans le groupe Capel, puisque c'est René Capel qui dans les années 86 cherchait une modulaire pour compléter si vous voulez son parc sur ce type de véhicule, et qui se retrouve finalement en avoir trouvé une au Togo, donc chez la société Intertrans, mais qui pour autant, si vous voulez, ne voulait pas se séparer de la Cometo sans pouvoir faire partir le Mall avec.
Eh oui.
Finalement, René, par la force des choses, René Capel a été un petit peu, entre guillemets, pas obligé, mais presque de récupérer ce véhicule-là.
Mais alors, Florian, pour n'importe quelle entreprise, ou même particulier encore plus, ramener de l'autre côté de la Méditerranée un tel camion, un tel véhicule, mm-hmm. c'est mission impossible. Mais pas pour Capel.
Non, rien n'est impossible pour la société. On est d'accord.
Non, mais comment vous avez fait concrètement ? Enfin, pas vous, mais peut-être pas. Mais...
Je ne saurais pas vous répondre si vous voulez, j'ai pas réussi à avoir tout l'historique de l'arrivée de ce véhicule de chez nous, quoi.
D'accord, mais il est passé par les voies maritimes, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais il a dû traverser la Méditerranée. Hein,
voilà,
donc,
c'est ça.
Et pourquoi à l'époque ce camion avait-il été acheté pour des missions assez particulières ?
C'est ça, alors ce véhicule a été acheté, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas vraiment une. C'est ça, le MOL ne
pas avait
pas une nécessité de ce matériel. C'était vraiment la remorque qui allait avec, une Cometo modulaire qui était visée. Quoi.
Oui, parce mm-hmm. qu'en fait, c'est presque un engin de chantier finalement, ce MOL.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Qui a fait des convois, même notamment dans le désert. Hein.
Et alors après, il est resté un peu comme ça à l'abandon pendant un moment
Comme je vous disais, il est arrivé donc dans le groupe dans les années en 1986. Et à l'arrivée en France, alors ce véhicule initialement était totalement jaune. Donc à l'arrivée de ce véhicule dans le groupe, si vous voulez, il était basculé tout de suite et repeint aux couleurs du groupe, donc en rouge.
D'accord.
Alors après, c'est vrai qu'il n'a pas été utilisé tout de suite pour faire des convois. Pour autant, il a eu fait quelques sorties bien remarquées.
Vous nous avez donné tout à l'heure son surnom, The Giant, le géant. Oui, c'est vraiment un mastodonte, quoi, ce camion.
Ah oui, c'est vraiment, oui, c'est ça, tout à fait. Autant de par ses mensurations, hein, donc la hauteur, la largeur, son PTRA qui s'élève quand même à 258 tonnes. Le moteur qui est surdimensionné, hein, donc on est sur un V12 Dutz biturbo de 455 chevaux. Donc, oui, c'est vraiment tous les superlatifs, si vous voulez, sont encore faibles pour décrire ce véhicule. Quoi.
Et alors, un peu la même question que tout à l'heure à Romain. Les conducteurs, c'était des conducteurs de poids lourds classiques il fallait quand même être un peu expérimenté pour se mettre au volant du MOL.
Évidemment que il y a eu besoin de quelques compétences particulières, notamment en conduite, pour faire quelques combats avec ce véhicule.
Ouais, parce que là, on parle beaucoup des angles morts, hein, depuis quelques années. Là, il y a un paquet d'angles morts, là, quand même, hein, quand on est au volant.
Voilà, c'est ça. On était encore des années-lumière des caméras, des rétroviseurs de caméras, on est bien d'accord.
Alors, j'ai bien lu l'article de France Route consacré à cette rénovation. J'ai cru comprendre que ce véhicule est un peu tombé en désuétude, on va dire, dans les années 90, un petit peu victime de la concurrence. À l'époque, les constructeurs propose des tracteurs un petit peu plus performants, plus modernes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il devient ce MOL T60-66 chez vous ?
Alors, si vous voulez, il a été tout simplement mis de côté et entre guillemets mis à l'abandon. Si c'est un petit peu fort comme thème, mais ouais, c'est ça. De ses dimensions, si vous voulez, il pouvait plus être présent sur des convois. C'est comme je vous dis, avec 12 Dutz, ça consomme énormément, ça pollue énormément. C'est rien que déjà le fait de le voir rouler, déjà c'est en soi déjà un convoi exceptionnel. Donc.
À partir du moment où commence à monter les normes euro, là, le MOL il reste au garage, quoi.
Ça n'avait pas forcément le coup, si vous voulez, à l'époque, de continuer à le faire sortir pour effectuer des convois.
Et ce MOL, il aura attendu quasiment plus de 30 ans pour revoir la lumière du jour à l'occasion de... Pour une occasion bien particulière, pouvez-nous l'expliquer ?
Alors oui, ça a été une occasion un petit peu particulière puisque bah, c'était pour fêter l'année anniversaire du groupe. Donc la fin de travaux prévisionnels de fin septembre 2023, c'était le cap à tenir. Alors c'est vrai que pour le coup, la rénovation en elle-même s'est déroulée très bien, mais a pris quand même relativement du temps.
Ah oui. Et d'où est venue cette idée de rénover, de sortir du garage ce mastodonte ?
Bah, un devoir de mémoire vis-à-vis du fondateur, hein, de René Capel. Hein, par la force des choses, ce véhicule est quand même devenu, entre guillemets, l'emblème et la mascotte du groupe.
Et alors, Florian ?
Il a fallu structurer les équipes, il a fallu prévoir quand même tout ça pendant quelques années.
Et Florian, avec vos compères Fred, Angèle, Ellie et Jérôme, comment vous organisez c'est intégré au temps de travail, les heures passées à restaurer le bol ?
Oui, totalement. Ça a été totalement intégré dans notre planning de production, si vous voulez. Alors, en premier lieu, c'était plus, entre guillemets, à temps perdu. Hein, donc, il était stocké dans le fond de l'atelier et on y passait du temps quand on avait... Bah, en tout cas, enfin, pas du temps à perdre, pas vraiment, mais un peu plus de disponibilité sur nos plannings de production.
D'accord, ok.
Et après, la rénovation, c'est quand même relativement accéléré sur la fin d'année, sur à partir du mois d'août, du mois d'août 2023.
Alors, on va en parler vraiment.
Ah oui, il n'y avait plus qu'un mois avant de...
C'est ça. Bon, pour autant, on avait quand même bien avancé quand même sur ce véhicule.
On va y revenir vraiment en détail là, dans le dernier quart d'heure de l'émission, mais il a fallu quand même le transporter, ce camion, de l'endroit où il était stocké, entre guillemets, jusqu'à l'atelier de rénovation.
Ouais, ça s'est passé comment ? Ce véhicule a fait, si vous voulez, plusieurs endroits où il a vécu sa vie de véhicule au rebut, entre guillemets. Il a été sur notre site de Saint-Hilaire-de-Bretmas, donc dans le Gard. Il a été déplacé sur un autre site, sur Saint-Privat, toujours dans le Gard, toujours remis de côté un petit peu et laissé comme ça jusqu'à l'arrivée finalement de ce véhicule-là sur le site du Pic. Ce qui a été d'ailleurs l'élément déclencheur pour lancer sa restauration.
Et cette restauration, on va en parler vraiment en détail dans le dernier quart d'heure de l'émission. Vous restez en ligne avec nous, Florian, on continue notre discussion juste après l'infotrafic. Tiens, dites-nous sur notre site internet radio177.fr, est-ce que vous aimeriez revenir certains camions comme le MOL sur les routes de France ? Est-ce que cette marque, MOL Trucks, est-ce qu'elle a marqué un petit peu les esprits ? N'hésitez pas à nous dire tout cela sur notre site internet. Je rappelle que nous évoquons cette aventure assez incroyable, la rénovation du MOL T6066 par le groupe Capel. Et nous avons toujours avec nous Florian, qui est coordinateur de la flotte chez Capel, Florian Rulland, pour en parler. Ça a duré combien de temps, cette rénovation, en tout et pour tout, Florian ?
Alors, si on doit parler en termes de temps sur la durée, on est vraiment sur une rénovation d'une bonne année et demie. Après, en temps de travail, de production, on est sur environ 500 heures de travail.
Mais oui, c'est énorme. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il a fallu faire ?
Bah alors, la première grande étape, si vous voulez, ça a été vraiment le démarrage du moteur. On ne peut pas se lancer à corps perdu dans des rénovations si le cœur de la bête en lui-même ne tourne pas déjà.
Et alors ?
Alors, ça a été un petit peu épique sur le départ. Un véhicule qui n'a pas tourné depuis des années, vous en doutez, ça ne démarre pas si bien que ça. Il a fallu remplacer toute la tuyauterie du carburant, il a fallu ouvrir toute la pompe à injection. Alors ça, c'était une étape sympa et c'est là vraiment où la compétence des anciens a changé la donne, si vous voulez. Hein. Je, pour l'anecdote, j'arrive à l'atelier et puis je vois la pompe à injection ouverte sur notre établi qui fait à peu près 4 mètres de long et sur la quasi-totalité de l'établi, c'était un enchevêtrement de petits ressorts, de pavés, de carter.
Un travail d'orfèvre, quoi.
Un vrai travail d'orfèvre. Donc une fois que tout ça a été remonté, c'est pareil, on a eu un petit souci sur le remontage de la pompe à injection, donc une pièce qui casse. Vous doutez bien que pour trouver des pièces sur ce genre de moteur et de pompe à injection particulièrement, trouver des pièces, c'est assez compliqué.
Et c'est pour des autant, choses qui se font plus forcément.
ça se fabrique plus du tout même.
Eh oui.
Donc on a eu beaucoup de chance, on a réussi à trouver ça, cette petite clavette cassée qui a cassé au remontage dans un conteneur avec des pièces d'un véhicule militaire qui était parti au rebut quelques années avant. Un vrai petit moment magique quand on a réussi à retrouver et que la pièce s'est remontée à l'identique quoi. Donc, Donc une fois la pompe à injection remontée et remise
une
à plat.
Petite clavette, rappelez-nous la taille de la clavette ou...
Oh, ça fait 5-6 cm, c'est parfait. Voilà. Je veux dire, même si c'est.
Une petite pièce de 6 cm par rapport à la taille du camion.
Primordial. Pour autant, si on n'avait pas réussi à la retrouver, ça aurait été compliqué de poursuivre.
C'est génial.
On a eu plein de petits moments magiques comme ça. Donc, après, une fois que la pompe à éjection était remontée, etc., l'autre moment magique où vraiment on a. Alors là, c'était les ailes qui poussent dans le dos, hein, c'est le démarrage du bébé. Hein. Donc, le premier démarrage avec les plumes qui volent de partout, parce qu'on avait un oiseau qui avait niché dans l'échappement. Ça a été un moment très, très sympathique, et d'autant plus que, à ce moment-là, si vous voulez, Alain Capel, hein, donc, qui est un des fils de René, arrivait à l'atelier à ce moment-là. Donc, de se retourner, de le voir arriver avec ce sourire pour de voir son bébé, hein, son géant tourner comme ça, ouais, un très, très beau moment. Mm-hmm. Très, très beau moment.
Et les pneus aussi, les pneumatiques, vous avez eu du mal à trouver, ça se fabriquait plus, les pneus de.
Tout à fait, on s'est rapproché de nombreux fournisseurs en pneumatique, hein, des grandes marques, hein, des grands manufacturiers, et c'est vrai que cette monte-là, hein, ne se fabrique plus du tout. Donc on a réussi à trouver, c'est Alain Capel qui a réussi à trouver ça par un de ses clients de notre filiale négoce, qui avait ça, qui traînait, et puis qui s'est proposé de nous les offrir.
Ouais, carrément.
Qui était en bon état, parce que les pneus qui étaient montés, c'est vrai qu'ils étaient complètement morts. Hein. Je veux dire, les flancs étaient entaillés, complètement craquelés.
Et là, vous avez une monte pneumatique neuve, quoi, en fait.
Alors, c'est pas neuf, mais c'est en excellent état.
Ouais, c'est en bon état, quoi.
C'est ça.
Et alors, au final, les délais ont été respectés jusqu'au jour J des 72 ans?
C'est ça, jusqu'à la veille du jour J des 72 ans.
Jusqu'à la dernière minute.
On était encore dessus, donc...
Avec des pneus comme ça, je reste sur les pneus un peu là. Ils pourraient faire du désert aussi, du sable.
Oui, absolument. Ben, c'est du pneu, si vous voulez. C'est pas de la monte de pneumatique poids lourd standard. C'est plus de la monte de génie civil.
Voilà, c'est ça.
On est sur du 21-25 de mémoire, à crampons. Hein, donc oui, c'est pas vraiment du pneu adapté pour la route, mais vraiment pour du hors sentier, de l'hors route. Hein.
Je rappelle que ce camion était au Togo, Nicolas. Donc faut quand même savoir des sacrés pneus. Non, j'imagine.
On ne traverse pas le désert avec du pneu ponctueux.
Bon, et alors, et le jour J, comment ça s'est passé, le jour des 72 ans? Là, j'imagine l'émotion pour toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce super projet.
Alors, l'émotion et la fierté de toute l'équipe qui a pu travailler. Hein, parce que je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures de boulot et de doute aussi. Hein, parce que, mine de rien, même si ça avançait bien, on n'est toujours quand même pas à l'abri de petites surprises. Alors le jour J, oui, on a pu présenter le véhicule à des clients, à des fournisseurs, devant des clients, des fournisseurs, du personnel aussi du groupe. Oui, un grand moment de fierté, un grand, grand moment de fierté.
J'imagine aussi un grand moment de fierté dans la famille Capel, parce que c'est à souligner, c'est un gros groupe, mais l'aventure est partie de René Capel donc, dans les années 50. Et c'est maintenant, c'est toujours la famille qui est à la tête de l'entreprise, hein, c'est ça?
Tout à fait. Et on a eu du coup des très belles photos alors de tout le monde, mais particulièrement de la famille Capel, hein, qui était ce soir-là quasiment présente, totalement présente. Quoi. Donc, des belles photos devant le géant restauré.
Et même s'ils sont nombreux, même s'ils sont nombreux, pour le coup, ils peuvent tous monter dans le camion, là.
Oui, on a des très belles photos de Alain Capel avec Daniel Capel, oui, tout à fait. Tout le monde était présent.
Bon, en tout cas, cette rénovation est quand même assez bluffante et stupéfiante. J'invite à acheter France Route, hein. Il y a de très belles photos pour constater cette rénovation. On est d'accord que ce camion, il n'est pas voué à retravailler un jour, Florian?
Non, c'est pas un véhicule qui peut reprendre la route. Ben, on parlait tout à l'heure des normes euros, enfin, on en est à des années-lumière. Hein.
Ouais, oui. Donc ça va devenir un super objet d'exposition.
Ce serait quand même pas mal de l'avoir à Rétromobile, par exemple. On lance un appel à Rétromobile, là.
Hein,
on y a vu le T100 Berlier il y a quelques années. Ouais, le MOL de Capelle, ça pourrait être classe. Hein.
Pourquoi pas?
Ouais, ce serait sympa, ça.
On va discuter avec, avec la direction.
Ouais. C'est pas un peu difficile de retourner à l'ordinaire après, quand, une fois qu'on a terminé le camion comme ça?
Après, tout est relatif. On est dans un milieu où, où tout est déjà, de par sa nature, exceptionnel. Donc, on fait déjà du boulot tout au long de l'année qui est déjà en lui-même exceptionnel. Donc là, c'est vrai que cette rénovation avait une saveur un petit peu particulière hein, du fait que ce soit l'emblème, etc. Donc, de retourner à notre quotidien, non, ça n'a pas été difficile hein, pour le
coup. C'est-à-dire que en fait,
d'autres projets qui sont potentiellement à l'arrivée. Donc,
c'est-à-dire qu'en fait, l'exceptionnel, ça veut dire que tous les jours, vous avez des activités de mécanicien différentes les unes des autres, quoi. Ça change tout le temps.
C'est ça, tout à fait. On est vraiment dans le pôle industriel et d'innovation de Capelle, hein, donc le PIC, hein, le site sur lequel la rénovation a été faite. C'est vraiment le centre névralgique, entre guillemets, des véhicules, si vous voulez, à l'arrivée. Donc c'est la même équipe qui a fait la rénovation de Capelle du MOL. C'est l'équipe qui s'occupe de préparer tous les camions neufs à l'arrivée. C'est cette équipe aussi qui fait la restitution au constructeur en fin de vie des véhicules. On fait de la grosse réparation sur de la semi-remorque. Voilà, c'est là où vraiment toutes les compétences, si vous voulez, sont regroupées. À côté de ça, on a aussi notre filiale revamping qui fait un boulot exceptionnel sur la remise en état des semi-remorques. Hein. Voilà, c'est vraiment le centre névralgique. Donc le quotidien est déjà, de par sa nature de la société, en tout cas, est déjà exceptionnel pendant l'année.
Et vous disiez, vous aviez d'autres projets là. J'ai entendu la petite phrase là. C'est quoi les prochains?
On a encore deux beaux petits véhicules encore à restaurer.
Ah bon?
On a un Tractomas. On a un Tractomas à terminer et on a également un joli William qui a été acquis. Récemment.
Magnifique.
De super projets. Bravo au Transport Capelle et bravo à vous, Florian, et puis à toutes celles et ceux qui ont travaillé à cette rénovation. Vous dites, des plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Il a fallu l'expérience des plus anciens et puis l'énergie des plus jeunes, j'imagine, pour arriver à ce super aboutissement.
Et les compétences de toute cette équipe aussi.
Effectivement. Merci beaucoup, Florian, d'avoir été avec nous ce soir. C'était top d'avoir
merci
fait découvrir. Mais merci à vous. Et à
merci.
Très vite.
Merci, Florian.
À très
bonsoir.
Vite sur l'antenne du 107.7. En tout cas, notre émission, peut-être, je l'imagine, a permis de faire connaître au grand public cette marque MOL Trucks. Parce que si j'en crois le sondage du soir, connaissez-vous la marque belge MOL Trucks? Non, à 84%. Donc, je pense qu'on a contribué peut-être à la promotion de cette marque. Merci, Nicolas, d'avoir été avec nous pendant 2 heures.
Eh bien, merci beaucoup, Thibaut. Merci beaucoup, Marielle et puis
Léo, qui était avec nous également.
Voilà, exactement. Et puis merci à Radio Vinci Autoroute, c'est toujours un plaisir
d'échanger. On vous retrouve quand, dans 15 jours?
Ah bah dans 15 jours,
oui, avec volontiers. Sébastien Ponchelet qui sera de retour, et effectivement.
Bah, écoute, c'était un intermède très sympa.
Partagé. Merci beaucoup Nicolas, moi je vous retrouve encore demain dans cette émission. D'ailleurs Marielle, vous serez là aussi demain je crois. Hein.
Mais absolument, je vous dis à demain soir. Voilà, une émission très intéressante et qui a fait un peu rêver aussi ce soir.
Effectivement.
Hein, c'était pas mal.
À demain Marielle, ce sera un tout autre sujet. Est-ce que demain on est le 20 mars? Est-ce que c'est Marielle le 20 mars?
C'est le jour du printemps.
Eh oui, c'est l'équinoxe du printemps et c'est le retour des motos et des motards sur les routes avec le beau temps.
Oui.
Ce sera le sujet de notre émission demain. Léo, demain, vous ne serez pas là, vous, hein, en repos
et
peut-être.
Demain, non, je serai en nuit demain, donc vous accompagnerai dans la moitié sud du pays demain.
Eh bien, bon courage, Léo, et merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à partir de 20h. Pour l'heure, il est 21h même. Pour l'heure, il est 23h. Merci d'être à l'écoute.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h-23h sur Radio Vinci Autoroute.